Claude, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Ce matin, Claude, on parle d'Emmanuel Macron en buvant du vin blanc.
Une flûte de vin pétillant, précise Libération, que Madame Véronique Besse partage au bar des supporters et la boisson irrigue l'enthousiasme. Emmanuel Macron est l'incarnation de ce dont les gens ont besoin, la franchise, l'authenticité. Il s'attelle aux vrais problèmes et n'a pas peur d'aller sur le terrain. Et cet éloge quasiment sobre du chef de l'État vaut surtout ce matin pour le lieu où il résonne. Le bar des supporters, oui, mais le bar des supporters des Herbiers, ville vendéenne dont Madame Besse est la maire et dont le club de football affronte demain le Paris Saint-Germain en Coupe de France, les Herbiers donc, où l'on aime Macron, nous dit Libération, qui tout de même la joue vicelard en tirant vers la sociologie politique, ce qui devrait rester une épopée sportive. Mais voilà, Libération veut démontrer, c'est sa une, que Macron est de droite. Est-il meilleur symbole de la droite que la Vendée des Herbiers et de Philippe de Villiers ? Philippe de Villiers qui, encore dans Libération, aime également Macron depuis que celui-ci est venu dans son puits du fou chercher les tendresses françaises. Villiers encore qui se glisse jusque dans une interview de l'entraîneur des Herbiers, Stéphane Massala, accordée aux Parisiens. L'interview a commencé en retard, tiens donc, parce que le coach devait d'abord rencontrer Philippe de Villiers. On n'en sort pas. Mais on s'arrache à cette lecture politique pour lire vraiment Massala, nommé entraîneur pour sauver son club en janvier dernier, à la place d'un de ses meilleurs amis et qui le regrette. C'est comme si on avait joué ensemble au loto et que j'étais le seul à avoir le ticket gagnant. Si c'était à refaire, je garderais l'amitié et je jetterai le ticket. Et on aime bien cet homme de football qui parle de son pote malheureux. L'humanité n'a pas lu Libération. Les Herbiers sont pour le quotidien communiste une métaphore, car la Coupe de France est, dans le champ du sport, la figure du boursier de l'école de la Troisième République qui s'élevait au-dessus de sa condition. On en fait et on en dit des choses avec le foot, des jolies parfois, comme à Massy dans l'Essonne, où la mairie, une mosquée et des hommes de bonne volonté organisent un tournoi de la fraternité multiconfessionnelle. Chrétiens, juifs, musulmans et autres, tous mélangés, car le foot est un défi lancé aux sinistres abrutis, c'est dans le Parisien. On en fait des choses avec le sport. Un match de rugby fait les unes du Dauphiné et de l'Indépendant de Perpignan. Mais le Dauphiné est triste quand l'Indépendant exulte, car l'USAP a battu Grenoble. Pour devenir champion de Pro D2 et remonter dans l'élite, et si vous voulez saisir ce qu'est l'identité à nouveau heureuse, allez regarder les 10 pages et au-delà de l'Indépendant où l'on parle d'honneur et de fierté, de résurrection et de joueurs gaillards, et que pèse dans cette euphorie ce titre intérieur du journal sur le tourisme dans les Pyrénées-Orientales qui est plombé par la grève SNCF. Pendant ce temps, chacun sa fête, la République du Cendre pavoise aux couleurs des fêtes johanniques, et Jeanne d'Arc vaut bien le rugby, et la modernité s'entrechoque avec le souvenir de notre jeune sainte, incarnée par une adolescente qui chaque matin confie sa journée à Dieu. Ce soir, il y aura à Orléans, pour Jeanne, un concert électro.
Mai 68 toujours dans la presse.
Et mai 68, je vous entends bien Léa, qui provoquerait peut-être la saturation, sauf à prendre tout ceci comme notre album de famille que l'on ouvre au hasard du cinquantenaire sur un temps passé de notre pays. Et dans le Berry républicain, un ouvrier intellectuel qui était boursier à Paris à l'époque, il se prénomme Mathijs, se souvient de son mai 68 et de son atterrement quand il avait vu Danny Cohn-Bendit dans Paris Match. C'était déjà foutu. On évoque dans West France les premiers pavés qui furent lancés non pas à Paris, mais en Bretagne. Oui, en Bretagne, dans des révoltes ouvrières. Et on raconte dans Libération qu'en mai 68, un homme, un bibliothécaire, écrivait modestement à la Villa Médicis à Rome pour demander l'autorisation de photographier la dite villa lors de son futur séjour romain. Il en a eu la permission, il lui est resté cela, cet homme de mai 68, une photo de vacances. C'est dans Libération, nous pouvons alors rêver à ce que l'histoire nous laisse. Et en ce printemps 2018, quand les journaux rivalisent d'analyse sur la première année de la présidence Macron, et c'est parfois piquant quand l'opinion décrit le macronisme comme le triomphe de la haute fonction publique, eh bien on se dit que de ce printemps, le souvenir d'une jeune femme sera peut-être simplement une belle journée d'avril à Angers. Elle s'appelle Victoria Collino, 17 ans, c'est dans le Berry républicain et dans la République du Centre. Elle est arrivée deuxième au concours du meilleur chignon de mariée de France. Il lui restera cela.
C'est magnifique. On parle également de harcèlement patronal dans le Nouveau Monde.
Mais le Nouveau Monde de l'économie, ne pas confondre, où un patron de start-up, c'est dans les Échos, a été éjecté de son entreprise pour maltraitance envers ses salariés. Mais ce patron, Ron Gutman, était une star de ce Nouveau Monde. Il donnait des conférences et avait écrit un livre sur le pouvoir du sourire pour être un leader. Des millions de personnes visionnaient ses idylliques et souriantes vidéos quand lui persécutait ses collaborateurs. Et on dirait dans ce petit article une fable sur nos apparences. Autre fable, autre conte de fées, celui de cette jeune Française Marjolaine Grondin qui a créé une application de messages automatiques pour faciliter la vie des jeunes. Bref, elle a été invitée à donner une conférence la semaine dernière en Californie chez Facebook, dans une ambiance, lis-je toujours dans Les Échos, de concert rock avec Zuckerberg débarquant en jean et basket. Elle a adoré, elle n'est pas inquiète du tout pour l'avenir de la firme. Voilà comment le nouveau monde s'installe, et il a son histoire et que pèsent en regard nos polémiques et nos scrupules dans les médias. Pendant ce temps, heureusement, l'ancien monde résiste, il est ainsi des pays immuables et des mondes somptueux d'art et de millionnaires. Et le Figaro nous montre une petite fille nue aux cheveux lourds dont l'image, peinte par Picasso il y a 113 ans, vaudrait 100 millions de dollars. C'est la vente du siècle qui s'annonce cette semaine à New York. La collection du milliardaire David Rockefeller, mort l'an dernier à 101 ans, et dont la fillette au panier de fleurs n'est qu'un des joyaux. Voilà de beaux objets qui feront aussi le bonheur de François Pinault, propriétaire de Christie's, nous dit le Figaro. Et à propos d'objets, finissons-en. On parlait de vin. Eh bien, une fausse bouteille de Grand Cru a fait sourire dans le bien public. Et sur Internet, elle vient de Chine. Et à en croire l'étiquette que personne ne pourrait prendre au sérieux, il s'agit d'un Richebourg Romané Conti en Cabernet Sauvignon, produit dans le Languedoc. Évidemment, ça n'existe pas. Sachez pourtant qu'il y a chaque année 30 000 bouteilles factices produites ainsi dans la nouvelle grande puissance qui domine notre monde. À la santé des confrères.
Merci Claude Ascolovitch pour cette revue de presse.